Говорит Москва.
Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance, avec un petit peu de retard, puisqu'un contretemps nous a empêchés d'enregistrer quand nous le voulions pour une parution au 15 de ce mois, comme je l'avais promis. Mais voilà, tout vient à point, à qui c'est attendre, et je reçois donc aujourd'hui Karine Bécher-Golovko. Karine Bécher-Golovko, ceux qui suivent les chaînes de réinformation, eh bien la connaissent. Elle est enseignante, elle est universitaire, elle enseigne à Moscou, elle habite à Moscou, donc son regard sur la Russie est évidemment extrêmement intéressant. Elle nous a consacré, à vous et à moi, une heure de son temps pour, je crois, des interventions tout à fait intéressantes, tout à fait passionnantes. J'ai été personnellement assez impressionné de la qualité, vraiment, de ses interventions. Avant de lui laisser la parole, j'aimerais donner 2-3 informations sur l'avis du site. D'abord, j'ai décidé d'augmenter la fréquence de publication. Le site souffre d'un manque de publication, très clairement, et j'ai décidé d'augmenter la fréquence de publication. Pour ce faire, j'ai la chance d'être accompagné désormais par le dessinateur Ignace, qui va illustrer de son crayon acéré la plupart des articles, en fait. Et c'est extrêmement généreux à lui, extrêmement extrêmement gentil. Ignace, ceux qui regardent Bistro Liberté, ou ceux qui sont abonnés à Mediapresse Info, bref, ceux qui lisent la presse amie ou les sites de réinformation, là aussi, le connaissent bien. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir Ignace, et je le remercie beaucoup. Je remercie également au passage Bruno qui nous a mis en contact. Ensuite, j'ai pour projet d'augmenter également la fréquence des podcasts, c'est-à-dire aujourd'hui un podcast par mois. Vous êtes un certain nombre à me dire que ça n'est pas suffisant, bah allez les faire. Donc j'en suis conscient. Le problème, c'est que j'ai du mal, effectivement, voilà, ça prend énormément de temps de faire les podcasts, vous vous en doutez. Ce que je vous propose, c'est de venir de temps en temps, occasionnellement, ponctuellement, avec moi, commenter l'actualité. On choisit des thèmes, enfin, il y a des choses qui se prépareront, mais j'aimerais bien que les lecteurs de ce blog, qu'il le souhaite, évidemment, et la parole. Donc, vous aurez la parole si vous le souhaitez. Alors, il y aura certaines conditions. La première condition, c'est de prendre contact, tout simplement, hein, d'utiliser le formulaire de contact. Et ensuite, eh bien, on discutera ensemble des conditions d'intervention. Mais c'est quelque chose en tout cas que j'aimerais mettre en place. S'il y a de l'intérêt, s'il n'y a pas d'intérêt, ben ma foi, ça ne se fera pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est le projet. Voilà, j'ai assez parlé. La parole à Karine Bécher-Golovko. Je vous retrouve tout de suite. Merci Karine Bécher-Golovko d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai plaisir d'abord de faire votre connaissance, parce que moi je vous connais par les différentes interviews que vous avez accordées à droite et à gauche, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de faire connaissance, et j'ai pensé que votre éclairage sur l'actualité, sur la Russie que nous aimons, puisque tous les deux nous y vivons, donc j'ai pensé que ça pouvait être ça devait susciter l'intérêt de nos auditeurs.
Alors, je vous remercie, le plaisir est partagé.
Écoutez, alors je vais vous demander, normalement on ne vous présente plus, mais moi je vais quand même vous demander de vous présenter un petit peu. Donc je sais que vous vivez à Moscou, je sais que vous y enseignez, alors que qui faites-vous, qu'enseignez-vous et quel est voilà, je vous demande est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement?
Donc, je suis à Moscou effectivement depuis une vingtaine d'années. Je suis venue dans le cadre de mes recherches au début. Et c'est vrai que j'étais venue en Russie plusieurs fois avant et j'aimais beaucoup ce pays. En fait, c'est pour ça que j'ai fait de la recherche sur la Russie, sur le droit russe. Et lors de mon séjour en 2000, je faisais un stage à l'Académie des sciences dans l'Institut de l'État et du droit. Et c'est là où j'ai compris que réellement j'avais envie de rester. J'avais absolument pas du tout envie de repartir en France pour y vivre, en tout cas, même si j'aime beaucoup la France. Et donc finalement, de fil en aiguille, j'ai enseigné et désormais, maintenant, j'enseigne à la faculté de droit de l'Université d'État de Moscou. J'y assure un cours spécialisé en quatrième année sur les questions de la théorie du droit, en fait, dans quelle manière l'idéologie va avoir une influence sur l'organisation de la justice dans les différents systèmes de justice continentaux et anglo-saxons.
Donc vous pourrez revenir nous parler du système judiciaire russe qui est assez quasi inconnu pour les Occidentaux que nous sommes. J'avoue que pour le Béotien que je suis en tout cas.
Oui, si vous voulez, mais je vous assure que c'est vrai que c'est un système qui est quand même extrêmement compliqué, en tout cas. Donc,
Est-ce qu'il fonctionne?
je pense qu'il fonctionne ni pire ni mieux que les autres systèmes, c'est-à-dire judiciaires dans les autres pays du monde, c'est-à-dire qu'un peu comme partout, la justice fonctionne dans 90% des cas, c'est-à-dire pour tout ce qui est le quotidien, et ne fonctionne pas dans les 10% des cas où ce sont des affaires sensibles, politisées, qui ont une connotation idéologique, où là, objectivement, la justice suit en quelque sorte et subit une certaine pression. Par ailleurs, en Russie comme ailleurs, la justice est plus ou moins indépendante du politique, ni plus ni moins qu'ailleurs aussi. Soyons pas naïfs non plus sur le système français. Mais en revanche, elle aussi essaye, comme partout ailleurs, elle a un rôle en quelque sorte, et c'est le rôle de tout système de justice, malheureusement ou heureusement, ça dépend des points de vue, de mettre en place et de garantir dans la société le fonctionnement d'un système juridique, mais qui donc est porteur d'une certaine vision idéologique de la société. Donc, si l'on parle de l'indépendance politique de la justice, en revanche, il est absolument impossible de parler de son indépendance idéologique. Mais si on pense aux États-Unis, par exemple, où la Cour suprême, selon les époques, a permis de rentrer le droit à l'avortement, même si maintenant il est remis en cause parce que politiquement il y a des changements, a validé le mariage homosexuel. En France, on voit très bien aussi le rôle tenu par la justice dans le développement de tout ce qui est la question de la défense des femmes, la défense des minorités. Et là, on voit bien que la justice est malheureusement dans tous les pays, un peu le bras armé qui permet de faire rentrer, de garantir dans la société une certaine vision idéologique du monde, vision qui est portée quand même en grande partie par le système judiciaire et juridique.
Eh bien, c'est en tout cas quelque chose. Ouais, c'est un sujet vraiment intéressant. Et est-ce que, pour en finir avec ça, est-ce qu'il y a aussi un engorgement de la justice, des lenteurs? Enfin, est-ce que la justice est aussi très lente en Russie comme chez nous, où le système judiciaire, même du quotidien, est en train de faire naufrage quasiment?
Alors, il y a ce problème de lenteur et de ce problème administratif, en fait, de la justice, parce que la justice est aussi une administration. Mais à la différence de la Russie, à la différence de la France, pardon, la Russie n'a pas réduit ni regroupé les juridictions. Donc, il y a moins ce problème qui se pose, en tout cas pour l'instant ici. Et la manière, en fait, de devenir juge est différente en Russie et en France. En France, nous avons eu pendant très longtemps une excellente formation de magistrats qui est, comme partout, mise à sac puisque le régime actuel néolibéral ne supporte pas l'élitisme, ne supporte pas les élites qui ne soient pas les siennes. Et il
Oui,
y a
ça.
donc une mise à plat de ce système de constitution des élites en France. Donc, l'école supérieure de la magistrature est largement attaquée. En Russie, les magistrats sont formés sur le long terme, arrivent par d'autres voies. Il n'y a pas cet équivalent réel. Il y avait sous la période soviétique, mais en fait, réellement, malheureusement, il n'y a plus aujourd'hui. C'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que parfois, il y a quand même un problème de conscience, de classe, hein, et de qualification réelle des magistrats. En revanche, cela permet effectivement d'assurer le courant et de former suffisamment de magistrats pour travailler dans les tribunaux. Donc, aucun système n'est parfait, en fait. Donc, chacun a ses défauts et ses petits problèmes de fonctionnement derrière.
C'est en tout cas passionnant. Mais moi, j'aimerais savoir, parce qu'évidemment, on pourrait, je vous sauterai l'occasion sur le sujet, et c'est bien, c'est votre
Oui, c'est mon
spécialité,
sujet, c'est normal.
c'est votre sujet, donc c'est normal. Malheureusement, j'ai des tas de questions à vous poser, et croyez-moi, j'ai beaucoup réduit les questions. Mais j'aimerais savoir un peu comment vous, toujours pour parler de votre vie en Russie, comment vous êtes perçue en tant que Française en Russie? Bon, on sait qu'aujourd'hui, l'Occident en général, et la France en particulier, n'a pas bonne presse, hein. Ils sont considérés comme des pays hostiles. Alors, est-ce que cela se reflète dans vos relations, dans votre vie sociale avec les personnes que vous côtoyez au quotidien?
En fait, je dirais que non, il n'y a strictement aucune évolution. La Russie a toujours été francophile, elle le reste. Il n'y a pas de francophobie comme il y a de russophobie en Russie, mais en France, hein, même si en France aussi la russophobie ne se vit pas forcément toujours au quotidien, concrètement entre les gens dans la population à l'égard de personnes très concrètes. C'est plus quelque chose qui est dans l'air, hein, assez insaisissable et qui pèse et qui est plutôt imposé à la population en France. En Russie, au contraire, on reste sur un amour de la culture russe, de la culture française, des relations tout à fait normales. Et je peux vous assurer que ces relations sont tout à fait normales parce que même si ça fait longtemps que j'habite en Russie, j'ai toujours un accent à couper au couteau et un accent français extrêmement marqué quand je parle russe. Donc, c'est difficile de me prendre pour une russe dès que j'ouvre la bouche, en fait. Donc, c'est au niveau de la vie courante, je n'ai pas vu de différence, ni avec tes amis. Personne n'a cessé de m'adresser la parole parce que je suis française, ni au travail. Il n'y a eu strictement aucun problème au niveau des reconductions de contrat à l'Université d'État de Moscou, ni avec les étudiants, ni avec les collègues. Il est vrai que pour les personnes qui me connaissent un peu, j'ai un amour de la Russie, autant qu'un amour de la France, hein, qui ne correspond pas à la France qui existe aujourd'hui. Mais je suis citoyenne des deux pays et je considère réellement ces deux pays comme étant mes deux patries. Il y a une patrie de sang, la France, où je suis née, et il y a une patrie de cœur, la Russie, là où j'habite. Et pour moi, il n'y a pas, si vous voulez, de difficultés, bien que les pays soient de facto en guerre aujourd'hui, dans les choses comme elles sont. Au contraire, hein, il me semble que c'est aux gens aujourd'hui qui aiment et la Russie et la France à être les ponts qui permettent de maintenir les liens entre les pays, parce qu'à un moment donné, les conflits finiront. J'espère qu'à un moment donné, ces élites globalistes disparaîtront. Et il faudra alors, à ce moment-là, remettre en place, hein, des ponts entre nos pays, et ça peut reposer justement sur les simples personnes que nous sommes, nous qui faisons déjà aujourd'hui en fait le pont entre les deux pays que nous aimons. Donc je ne vois pas, si vous voulez, d'hostilité, bien au contraire. Il y a un regret très profond de la population qui ne comprend pas comment la France a pu tomber si bas, qu'est-ce qui a pu se passer pour que la France considère la Russie comme un ennemi, alors que ce sont des pays qui ont de très très longues histoires de collaboration, de guerre aussi, ne l'oublions pas. Mais il y a quand même des liens entre nos pays qui sont historiques, et il y a effectivement plutôt une surprise en fait, et une déception, et l'espoir que ces passagers que, en quelque sorte, la France et les Français vont se réveiller et vont revenir à eux-mêmes. Et en ce sens, je partage tout à fait la position des Russes. Moi aussi, je l'espère très, très sincèrement.
Oui, moi ce que je constate, alors j'ai fait les mêmes constats que vous, hein, quand je parle avec les gens et les gens sont effectivement, d'abord ils sont nostalgiques d'une certaine France et ils sont attachés effectivement et malgré tout ce qui se passe, la France garde quand même son prestige. Ce que je note et que je trouve vraiment très intéressant dans l'évolution des mentalités et des comportements avec la période post-soviétique, c'est que je suis presque sûr que du temps de l'URSS, les gens auraient été beaucoup plus agressifs par mimétisme vis-à-vis de la situation de la situation et de l'actualité. Et aujourd'hui, pas du tout. C'est-à-dire que les gens sont ce qui moi me laisse penser. Enfin, c'est pas le seul indice que j'ai, mais ce qui moi me laisse penser que les gens sont plus libres.
Ça, je sais pas, j'avoue pas tellement partager cette position, pour la simple et bonne raison que sous l'époque soviétique, il y avait quand même la guerre froide, avec aussi, on va dire, un rejet idéologique quand même assez profond de l'Occident. Et ce n'empêchait pas de voir, dans le cas de l'Union soviétique, énormément de cinéma, de musique, de théâtre, de littérature qui venait d'Occident, alors que n'oublions pas que, à l'inverse, nous avions en Occident un accès extrêmement restreint à la culture soviétique, qui est une culture extrêmement riche, au-delà de la propagande anti-soviétique qui était évidemment de rigueur dans nos pays dits libres, mais qui avait quand même un conditionnement psychologique et intellectuel assez fort aussi à l'époque, puisqu'il y a quand même une guerre idéologique derrière, donc c'est logique.
Bien sûr.
Mais il n'y avait pas de rejet de l'autre à ce moment-là. Je vous rappellerai quand même que même lors de la Seconde Guerre mondiale, personne n'a annulé en Union soviétique Wagner, personne n'a annulé la musique classique allemande, l'allemand après était enseigné toujours dans les écoles, donc comme langue étrangère. Donc non, je ne pense pas qu'il faille revenir sur ce vieux credo de les pauvres étaient complètement muselés à l'époque soviétique, et heureusement Yeltsin les a libérés, et maintenant ils peuvent faire ce qu'ils veulent et aller au McDo.
Oui,
Il
non,
semble que.
c'est pas mon point de vue, si vous voulez. Moi, ce que j'ai noté, c'est que quand il y avait, par exemple, des sujets d'actualité ou des conflits, évidemment, on est d'accord sur le fait que, effectivement, malgré la guerre froide, et ce que vous avez dit est tout à fait exact. Cela dit, quand il y avait des sujets d'actualité un peu brûlants et disons des points chauds de l'actualité, je pense notamment. J'ai eu un truc qui me vient à une époque, il y avait une histoire d'expulsion à cause d'une histoire d'une accusation d'espionnage du réfugié Ariane ou quelque chose comme ça. Quand il y avait des points chauds de l'actualité, ça pouvait à ce moment-là très vite monter avec des attitudes un peu hostiles, un peu agressives. Alors que maintenant, ils auraient, parce que véritablement, la Russie est extrêmement maltraitée dans l'information chez nous, est souvent même diffamée. Et malgré tout, les gens ici, alors je sais pas jusqu'à quel point ils s'en rendent compte, mais les gens ici restent extrêmement calmes et posés, et surtout ne touchent pas au prestige dont jouit la France encore dans les cœurs ici.
Oui, là aussi se pose la question, peut-être aussi sous un autre angle. Il y a, et dans les, des élites, de la part des élites actuelles aussi, un culte de l'Occident qui n'est pas remis en cause. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est une question de liberté ou au contraire d'aliénation mentale. C'est que, quoi qu'il
La
se
question restera
passe,
posée.
parce que la question, là, quand même, parfois, lorsque nous en sommes quand même à la troisième année de guerre ouverte, il y a encore une impossibilité totale réellement pour les élites ici, effectivement, à considérer que l'Occident puisse être un ennemi composé d'élites globalistes actuelles qui ne sont pas des élites européennes, qui ne sont pas des élites américaines, qui ne sont pas des élites françaises, ni italiennes, etc., mais qui sont bien des élites globalistes. et qui n'attendent qu'une chose, c'est la disparition au minimum politique de la Russie, voire géographique. Donc là, il y a effectivement, au contraire, pas une question de liberté, mais un problème de conditionnement. En ce qui concerne, à mon avis aussi, je suis d'accord avec vous, le fait que malgré tout ça, effectivement, les gens ici continuent à aimer la Russie, la France, l'Europe, la culture, c'est aussi parce que ils n'ont pas eu un droit à un tel travail d'acculturation comme nos populations ont subi en Occident. Et il reste encore, surtout dans les générations d'un certain âge, une certaine vision de la culture classique occidentale qui ne correspond pas à l'état culturel de nos pays aujourd'hui. Donc il y a ici aussi un décalage. Quand ils aiment la France, ils n'aiment pas forcément la France woke, la France que l'on a aujourd'hui. Ils aiment la France d'Alain Delon, la France des heures de gloire, on va dire, des années 70 à peu près. Et quand vous discutez avec certains jeunes aujourd'hui, j'ai été assez choquée justement il n'y a pas très longtemps, j'étais à un forum médiatique et une jeune étudiante vient me voir en me disant: Oh, c'est merveilleux, vous êtes française, j'adore la France. Je dis, super. Fait oui, c'est génial, j'adore regarder les séries sur Netflix, les séries actuelles françaises, vous savez, avec tous les quotas, où il faut les quotas d'immigrés, il faut les
Oui,
quotas
c'est
de.
ça, ouais.
Et elle adore ça. Et c'est génial parce que les femmes en France, elles payent leur café elles-mêmes. Alors, est-ce qu'on peut dire que la population actuelle est plus libre parce qu'elle aime cette France-là? Je ne suis
Là,
pas sûre.
alors c'est un angle intéressant. Je laisserai pour des, notamment pour des raisons de temps, la question posée parce que le débat, en tout cas
Non, mais
le
ça se discute en fait, si vous
ça
voulez.
se
C'est
discute,
simplement.
exactement. Ça se discute. Et j'aimerais vraiment avoir le temps d'en discuter avec vous, parce que c'est vraiment une question intéressante. Parce que bon, les constatations que vous faites, je les fais aussi, malheureusement. Et donc, si vous voulez, ça nous amènerait, certainement
À
très loin dans le
quelques
temps.
heures de débat.
C'est ça, très loin dans le temps que nous n'avons pas, malheureusement. Mais malgré tout, c'est votre éclairage est très intéressant et à 99%, je le partage. Je trouve effectivement que, mais je crois qu'il y a surtout une espèce d'ambivalence ou de schizophrénie ici, c'est-à-dire que
Un
les gens,
peu.
d'un côté, ils considèrent qu'on est décadent et puis d'un autre côté, ils aiment notre décadence.
Oui.
Mais ça aussi, c'est quelque chose qui trouve ses racines très loin, justement, dans la mentalité soviétique. On peut pas développer. Je suis désolé. On peut pas développer.
Je comprends.
Mais vous reviendrez. Vous reviendrez. J'aimerais savoir dans le conflit, puisqu'il malheureusement conflit il y a et il faut en parler. Dans le conflit qui oppose la Russie et l'OTAN via le proxy Ukraine, et ça j'y tiens beaucoup, et malgré l'agitation médiatique, j'aimerais savoir, la victoire de la Russie est-elle inéluctable ou est-il réaliste que l'Occident, dans cette histoire, tire son épingle du jeu? Un compromis est-il réalisable et comment vous voyez les choses?
Je dirais que cette question est encore moins simple que la précédente,
J'en suis parfaitement conscient.
donc.
Mais vous étiez prévenu.
Comment dire? À l'heure actuelle, il me semble que nous sommes un peu dans une situation dans laquelle le compromis en lui-même n'est pas possible parce que le conflit est existentiel pour les deux parties. C'est-à-dire que l'Occident globaliste actuel, j'insiste sur le fait qu'il soit globaliste, que l'Occident en tant que tel peut parfaitement négocier, mais l'Occident globaliste, lui, ne peut pas négocier. L'Occident globaliste actuel ne peut pas se permettre l'existence politique et géographique de la Russie dans ses frontières aujourd'hui telles que reconnues par le droit russe, c'est-à-dire avec les nouveaux territoires. Parce que cela reviendrait à dire qu'il y a une partie du monde qui lui échappe, et en tant que tel, que ce monde global n'est plus global. Donc pour lui, ce serait une défaite objective. Et en ce sens, toute négociation avec les élites globalistes est un report, un gain de temps qui doivent leur permettre de préparer un peu mieux les armées, de relancer un peu l'industrialisation, parce qu'il y a quand même un problème de fournition d'armes, il y a un problème de fourniture d'hommes. Donc, du côté, du point de vue des élites globalistes, c'est une question de gain de temps. Et on l'a vu à chaque fois, que ce soit avec les accords de Minsk, que ce soit avec les négociations en Turquie au début du conflit, version armée. Donc, en ce sens-là, je ne pense pas qu'un compromis soit réalisable. Ce qui est possible, hein, c'est de tenter d'obtenir sur le plan politique ce qui est difficilement possible d'obtenir sur le plan militaire actuellement pour l'Occident, c'est-à-dire une victoire. Ça, c'est possible. Mais on n'appelle pas ça un compromis dans ce cas-là. La Russie peut-elle gagner? Je dirais que la Russie n'a pas le choix. Elle doit gagner. Parce que si elle ne gagne pas, elle disparaît.
Oui, mais l'Occident n'a pas le choix, il doit gagner aussi.
Non, l'Occident, lui, peut réussir à exister. Les élites globalistes, elles, peuvent disparaître. L'enjeu est ici est différent.
Ah oui, mais le problème, c'est que l'enjeu se confond, parce que Emmanuel Macron l'a dit, donc c'est vrai, la Russie
On
ne
n'en
peut
doutera
pas.
pas.
Merci, merci pour lui. La Russie ne peut pas gagner, c'est-à-dire que... alors,
Mais parce
vrai
que
ou...
Macron est globaliste,
C'est ça, bien sûr, bien
Macron
sûr.
est une élite globaliste, Macron n'est pas une élite française. L'intérêt pour eux, effectivement, quand je dis que le combat est existentiel pour eux, pour ces élites, hein, c'est-à-dire que l'Occident, lui, je dirais, va renaître si la Russie gagne.
J'en suis convaincu. Alors, ça, c'est une réflexion extrêmement intéressante parce que j'en suis moi-même convaincu. On a aujourd'hui, moi, je ne suis pas russe. J'habite en Russie, mais je ne suis pas russe. J'aime la Russie, ça fait 40 ans que j'y viens. Mais ça reste, il reste, il n'en reste pas moins que c'est pas mon pays. Et ce que je dis aux gens, c'est que la victoire de la Russie telle qu'elle est aujourd'hui, enfin dans cette situation-là, c'est aussi, je veux dire que c'est notre victoire, parce que quand on me dit il faut défendre, enfin quand j'entends il faut défendre l'Ukraine pour nos valeurs, excusez-moi, mais les valeurs dont on parle, ce ne sont pas mes valeurs. Donc moi je
Oui,
me
ça.
reconnais pas là-dedans, d'accord? Donc quelque part, moi c'est pour ça que j'espère, évidemment, une histoire, c'est que je pense qu'elle va avoir des éléments et des répercussions positives sur nous. Mais ce qui m'intéresse dans le conflit actuel, toujours est-il, bon, il y aura tôt ou tard une négociation, à moins que ce soit la guerre de 100 ans. Et qu'est-ce que les différentes parties ont à offrir dans le cadre de cette négociation? Parce que, bon, je pressens intuitivement que ça négocie déjà. En réalité, même si c'est une négociation à bas bruit, de toute façon, il n'y a que celle-là qui fonctionne. Qu'est-ce que les différentes parties ont à offrir aujourd'hui pour que ça s'arrête?
Pour l'instant, strictement rien, parce que c'est trop tôt. Lors de tout conflit, il y a toujours des négociations secrètes entre les parties au conflit. C'est classique, ça a toujours existé. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent aboutir. En général, elles aboutissent quand vous avez une partie qui cède, qui perd, et quand vous avez une partie qui gagne. Pour l'instant, personne ne veut céder et personne n'a gagné. Donc, pour l'instant, nous sommes dans des négociations intermédiaires qui testent un petit peu l'autre. C'est tout. Pour l'instant, ça n'aboutira pas. Pour savoir qui va gagner, il va falloir d'abord gagner. Et à partir de ce moment-là, réellement, il pourra y avoir ce qu'on appelle des accords à la fin d'un conflit. Mais nous sommes rentrés un peu trop dans ces logiques managériales de négociation entre entreprises. Ce n'est pas tout à fait le même enjeu qui est en place actuellement. Donc, même si les élites sont extrêmement managériales aujourd'hui, un peu de tous les côtés, cela n'empêche que la réalité se rappelle à eux. Ils ont déjà essayé de négocier à Istanbul. Le résultat est absolument magnifique. Donc, en tout cas pour la Russie. Donc, je ne suis pas certaine que, actuellement ou dans un avenir proche, des négociations permettront d'arriver à un meilleur résultat. On en revient à la même chose. Est-ce qu'il y a un compromis possible? À mon avis, il n'y en a pas. Il y a la question de savoir qui doit capituler. Pour l'instant, c'est ça. Et on en revient toujours à la même chose. Ces négociations ne sont possibles que lorsqu'il y a un véritable compromis. Sinon, on en revient toujours au fait que l'une des parties essaie d'obtenir sur le plan politique ce qu'elle ne peut pas obtenir sur le plan militaire. On n'appelle pas ça une négociation.
C'est ça, c'est-à-dire que j'ai entendu pas plus tard qu'hier Marc Rutte qui disait que de toute façon l'Ukraine allait adhérer à l'OTAN, tôt
Voilà,
ou
on
tard.
négocie quoi?
Donc on négocie quoi exactement? Le problème c'est que c'est juste pas réaliste parce que pour que l'Ukraine adhère à l'OTAN, il faudrait que la Russie en tant qu'entité politique disparaisse parce que
Voilà.
la Russie ne laissera jamais faire. On est
Oui.
d'accord.
Bah, si, ils peuvent formellement, le problème, c'est que nous sommes dans une phase d'délitement des institutions globalistes aussi. Et là, il y a un élément extrêmement important que vous soulignez effectivement. Si l'on parle en termes d'institutions et de droits de façon classique, dans la mesure où l'Ukraine n'a pas de frontières délimitées, elle ne peut pas adhérer à l'OTAN, logiquement, sauf si la Russie disparaît, puisque ça enlève le côté flou de sa frontière à l'Ukraine. Mais actuellement, nous sommes dans des zones qui sont assez instables, et le fait même de pouvoir envisager et de lancer cette adhésion fantasmagorique de l'Ukraine à l'OTAN, on ne sait absolument pas dans quelle frontière, puisque la reconnaissance des frontières de l'Ukraine n'est pas la même du côté atlantiste et du côté russe. Et des deux côtés, en fait, cela, aussi étrange que cela puisse paraître, du point de vue juridique, ça se tient, parce que ce sont deux conceptions juridiques antagonistes. D'un côté, vous avez la Russie qui s'appuie sur le droit national et la question de l'État souverain, et qui dit l'Ukraine a les frontières qui correspondent au découpage de ses voisins aussi, c'est-à-dire que moi, je suis le centre de mon pouvoir, la Russie. Je pose mes frontières et je reconnais le droit des peuples qui s'est exprimé parce que l'Ukraine, en tant qu'État, a disparu en 2014, si on se prend du point de vue souverain et de l'État national, au minimum en 2014, puisqu'elle a perdu le contrôle juridique et politique de son territoire, elle a détruit le fonctionnement régulier de ses institutions. C'est un raisonnement absolument logique. De l'autre côté, on a le raisonnement internationaliste qui dit l'État existe dans les frontières qui sont reconnues par la communauté internationale. Donc on nie le droit souverain de l'État de déterminer les frontières et on nie le droit des peuples à s'autodéterminer en fait. Et pour eux, de ce côté-là, il n'y a pas reconnaissance du droit russe puisqu'il y a suprématie de la communauté internationale. Et donc, l'on voit très bien que ce système de reconnaissance, entre guillemets, par la communauté internationale ne peut fonctionner que lorsqu'il n'y a plus d'État souverain. Or, la Russie est cet État souverain qui les perturbe. Et quand Rutte insiste sur le fait que l'Ukraine peut rentrer, il, en fait, se met dans un espèce de paradigme absolument inconciliable, puisqu'il est absolument incapable de dire rentrer dans quelle frontière.
Moi,
Et
je
ça,
pense que.
c'est absolument intéressant, je trouve. Enfin, en tout cas, pour les jurys, c'est très intéressant.
Alors, moi, je trouve que c'est non seulement intéressant pour les juristes, mais c'est intéressant pour les psychiatres. C'est-à-dire que.
Aussi, oui. Il
Ah
y a une
bon?
négation de la réalité qui est un élément, je trouve, extrêmement fort chez les élites globalistes actuelles.
Alors.
Limite phénoménale.
Ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier. La négation de réalité par nos élites, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Malheureusement, on est obligé d'avancer. Mais moi, j'aimerais savoir parce que dès qu'on évoque aujourd'hui la politique russe en Occident, dès qu'on évoque que ce soit à la télévision, le premier mot, le maître mot qu'on entend, c'est Poutine. Alors, j'aimerais savoir, le pouvoir russe est-il un pouvoir monolithe ou monolithique? Est-ce que Poutine est vraiment cet homme surpuissant qui décide d'absolument tout et qui contrôle absolument tout? Bon, on sait, puisque moi je suis comme vous certainement, un adepte des chaînes d'information occidentales. Donc on sait qu'il est le diable, évidemment, mais est-ce qu'il contrôle vraiment tout? Est-ce que définir la Russie à Poutine suffit-il?
Alors, Poutine est avant tout devenu en fait un symbole. C'est ce qu'on appelle un leader charismatique. Après, le fonctionnement politique russe est extrêmement complexe. C'est-à-dire que, il y a ce côté objectif. À partir du moment où vous avez effectivement un leader charismatique et qui est là pendant un certain temps, il objectivement assèche un peu le territoire politique autour de lui. Dans ce sens-là, dans les années 90, début des années 2000, vous aviez plus de différentes figures politiques. Ça, c'est obligatoire, c'est normal, comme De Gaulle à l'époque en France. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres figures politiques. Ça veut dire simplement qu'elles sont moins visibles. C'est le premier point. Ensuite, il y a un autre découpage historique, je dirais, dans le paysage politique russe, qui à l'époque étaient les slavophiles, les occidentalistes, qui aujourd'hui correspond plus au étatisme souverainiste globaliste. Et ce découpage est toujours aujourd'hui à l'ordre du jour. En fait, Poutine n'est pas celui qui décide de tout dans le sens où il n'est pas à l'origine, sa volonté n'est pas à l'origine de toutes les décisions. Mais c'est celui qui va trancher tous les conflits. Et les conflits, justement, entre ces élites globalistes d'un côté et étatistes de l'autre. Il maintient en fait l'unité du pays par sa personne et par sa présence en évitant un conflit ouvert entre ces deux élites. Et la question qui se pose, c'est à terme et comment vivront ces élites après son départ, puisqu'au-delà du symbole, c'est aussi un être humain et qu'il n'est pas éternel. Et ça, c'est une autre question.
Et c'est une
En
autre
revanche.
question. Oui, allez-y, je vous en prie.
Et la chose aussi à comprendre est que il y a au-delà de ça des jeux qui sont extrêmement forts. On l'a vu par exemple à l'époque du Covid. Il y avait ces élites absolument radicales pro-covidiennes, comme le maire de Moscou, Sabianine, par exemple. Et il y avait à côté de ça une vision beaucoup plus humaine qui essayait de garder une vision de l'État, une vision de la valeur humaine, qui était beaucoup plus portée par Volodine, le président de la Douma. Et donc, on voit bien qu'à certains moments, certaines élites vont dominer, à d'autres moments, elles vont être dominés. Ainsi, après le Maïdan en 2014, les élites étatistes sont revenues sur le devant de la scène jusqu'en 2016. En 2016, il y a le changement à l'administration présidentielle et on voit en 2016 le retour des élites globalistes, puisqu'en quelque sorte, le premier choc est passé, il y a une sorte de normalisation, on revient à cette vision néolibérale. Et il y a une autre chose aussi qui est intéressante, c'est l'introduction dans le discours de Poutine, toujours si on garde en tête cette dualité idéologique en fait des élites, et dualité idéologique et non politique, c'est ce qui rend la situation assez dangereuse quand même à l'intérieur. C'est l'introduction dans le discours de Poutine du terme de néolibéralisme, ce qui est récent, ça fait à peine une année, et avec une connotation négative. Donc ça en soi, c'est porteur d'espoir, sauf que pour l'instant, la conception poutinienne, on va dire, du néolibéralisme est extrêmement réduite puisque ça reste simplement aux valeurs traditionnelles. C'est-à-dire tout ce qui est le côté du culte managérial, du culte numérique, est complètement évacué. En revanche, la Russie est en quelque sorte, au-delà du combat de ses élites, portée par presque le sens de l'histoire, je ne sais pas comment l'appeler sinon. Parce qu'il y a une réelle volonté et compréhension qu'elle doit exister de manière souveraine. Ce qui est assez paradoxal si on reste toujours dans les problèmes de conflits, de perception des choses, puisque à la fois comment peut-on être protégé aussi les globalistes tout en voulant défendre la souveraineté? Mais ça aussi, c'est une des complexités de la politique russe. Et en étant portée donc par cet instinct de survie souverainiste, elle revient sur certains cultes au fur et à mesure du monde global, notamment le culte de l'immigration. Et là, on voit aujourd'hui un travail en ce sens. Donc, je dirais que pour finalement revenir et répondre un peu plus tard à une des questions que vous avez posées avant, il me semble que oui, la Russie, elle, va gagner. Et en ce sens, et l'Occident aussi va gagner. Ce qui doit absolument perdre, ce sont les élites globalistes, où qu'elles soient. C'est ce qui permettra à tous ces pays de gagner. Et ici, Poutine permet justement de donner le temps de faire ce travail en douceur pour éviter que l'on en arrive à nouveau, comme en 17, à une situation explosive à l'intérieur du pays, ce qui mettrait la Russie dans une situation de fragilité internationale absolument exceptionnelle.
Il est intéressant que vous parliez de Poutine en associant le mot douceur, parce que c'est pas du tout l'image que l'Occident en a. Je me permets de le relever. On a vu s'opérer, cela dit, récemment un tour de vis en matière de censure. Certaines plateformes de réseaux sociaux sont fermées. Certains diffuseurs de vidéos, je pense à YouTube, ou certains organes de presse aujourd'hui sont quasiment censuré en Russie. Cela reflète-t-il de la part des élites russes une comment dire ça, une crainte d'un basculement, une espèce de raideur, une crainte de basculement défavorable de l'opinion publique? Est-ce que les élites russes craignent leur opinion publique?
Non, pas du tout.
Alors
Je pense que
pourquoi?
ça n'a rien à voir avec la peur, c'est au contraire extrêmement rationnel. L'on voit très bien, et si par exemple on regarde la manière dont l'Ukraine a été travaillée, dont l'Arménie a été travaillée, dont la Géorgie aujourd'hui en sort, les réseaux sociaux, les ONG, les plateformes sont d'excellents instruments qui sont essentiellement maîtrisés par justement les élites globalistes et qui servent à manipuler l'opinion publique. Donc, si un pays veut justement avoir un peu une politique souveraine, il est obligé d'enlever la manipulation extérieure. Et il me semble que c'est simplement en ce sens, ce n'est pas une question de crainte, c'est une approche politique parfaitement rationnelle.
Oui, mais pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais il y a d'autres moyens. On a vu que justement je vais schématiser un peu, mais la pensée antimondialiste a en Occident su très très bien utiliser justement les réseaux sociaux et elle ne elle je veux dire beaucoup de gens ont pris conscience des méfaits du mondialisme, et le courant de pensée antimondialiste a beaucoup progressé aussi grâce aux réseaux sociaux. Donc,
Et quel est le résultat?
mais le résultat,
Oui, c'est ça le problème, c'est quel est le résultat?
ben le
Et
résultat,
on
c'est
en est sur.
qu'aujourd'hui, ben si
Attends,
si
c'est
le...
qu'il y a plein de gens qui en ont pris conscience sur les réseaux sociaux, et je suis d'accord avec vous, sur ces choses de réinformation, etc. C'est très bien. Concrètement, l'Occident est complètement maîtrisé par les globalistes. La société européenne est une société à 90% wokée. Je vous dirais que est-ce que ça vaut la peine de mettre en danger quand la Russie n'est pas arrivée à ce niveau-là de wokisme déjà?
Alors,
Est-ce que
oui.
ça prend le risque de mettre en danger la société pour les 10% ou est-ce que justement il n'y aurait pas aussi d'autres moyens de maintenir la société éveillée que de laisser l'accès aux réseaux sociaux?
Alors, sur la deuxième partie de votre réponse, je peux pas répondre. Mais sur la première, je peux répondre. C'est-à-dire que aujourd'hui, en France et en Occident, il y a un véritable mouvement de résistance qui se lève. La preuve, c'est que aujourd'hui, le macronisme, il ne tient que par la force et par la force et par la ruse.
Tout
C'est-à-dire
à
que
fait.
bon, on trafique les élections. C'est-à-dire que quand on a perdu, on a gagné quand même. Macron ne peut pas sortir, ne peut pas apparaître en public sans être conspué. Donc, ce recours à la force montre bien qu'ils sont faibles. Donc, alors après, évidemment, quand vous avez la force armée avec vous, forcément, bah, quand vous avez la force avec vous gagnez tout le temps. Mais ça, les réseaux sociaux n'y changeront rien. Mais là où les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses, c'est que c'est une alternative aux médias. Les médias ne peuvent plus raconter n'importe quel mensonge. Et
Mais on n'a pas ce problème-là en Russie, en principe,
alors,
global.
certes.
Donc, C'est la question de savoir si vous prenez un médicament qui doit être générique pour toutes les maladies, pour tout le monde, partout dans le monde, les réseaux sociaux doivent sauver les sociétés. OK. Sauf que les problèmes des sociétés varient d'une société à l'autre.
Non, non, ce n'est pas les réseaux sociaux qui doivent
Et
sauver
là,
les
pour
sociétés, c'est
l'instant, le
le...
problème des réseaux sociaux en Russie, c'est plutôt le risque de contaminer les sociétés, la société russe, avec tous ces délires, comme on dit, l'accès à toutes ces grandes productions cinématographiques d'une qualité absolument phénoménale en Occident, c'est bien connu. Sans parler de la grande production cinématographique russe actuelle qui reprend les mêmes schémas et qui ne peut être diffusée que sur certaines plateformes parce que heureusement c'est interdit à la télévision. Ouf, parce que la vulgarité est heureusement pour l'instant encore censurée à la télévision, mais elle a parfaitement le droit avec ce qu'on appelle le MAT, c'est une espèce de langage ordurier et criminel qui est maintenant devenu le summum dans certains milieux et qui rentre dans la société. Est-ce que la Russie doit avoir peur? Non, la Russie marque des règles. Il y a des règles du jeu partout. C'est OK, la France, l'Italie, l'Allemagne sont des grands pays libéraux. C'est pour ça qu'elles ne veulent absolument pas interdire. Soit, sauf qu'elles ont interdit ce qui leur faisait peur, c'est-à-dire les médias que personne ne regarde, mais qui fait tellement peur qu'on les interdit quand même. Donc, effectivement, les médias russes, eux, ont été interdits en Occident, parce que ils peuvent manipuler l'opinion publique dans un sens qui va pas dans le sens des élites globalistes. La Russie, elle, a aussi, essaye en tout cas aussi de bloquer les sources de manipulation des élites globalistes qui peuvent manipuler dans un autre sens l'opinion publique russe. C'est normal, je vois pas très bien où est le problème. C'est
Oui,
un
je peux.
équilibre en quelque sorte.
Oui, alors là
C'est
aussi.
pas une question du bien ou de mal, on n'est pas
Non,
dans
non.
l'appréciation de c'est bien, c'est mal, ce sont les règles du jeu, c'est logique.
On est d'accord. Alors, on est d'accord sur une chose, c'est sur le fait que un pays fixe les règles du jeu qu'il veut. Ça, c'est une voilà. C'est le principe même de la souveraineté. Là-dessus, nous sommes d'accord. Là où j'aurais quelques divergences avec vous, c'est que, à mon avis, restreindre le débat n'est jamais bon parce que quand on crée du manque, on crée de l'envie, en fait, etc. Mais là encore, ça nous amènerait
Je
vraiment
ne sais pas
trop
s'il
loin.
y a du débat, je suis désolée, dans la propagande LGBT, dans la propagande woke, je vois pas très bien où est le débat. C'est pas du débat, c'est du fanatisme. Il n'y a pas d'interdiction du débat en Russie. Ça devient même, je dirais que, enfin, moi je sais que j'ai par exemple monté un club de discussion ici à Moscou. On se réunit 4 fois par an. J'ai des gens qui spécialement viennent de France parce qu'ils disent que maintenant il n'y a qu'en Russie où on puisse réellement débattre et discuter de quelque chose, qu'en France, ça n'est plus possible. Donc, je ne pense pas, si vous voulez, que bloquer, réduire le trafic de YouTube, qui de toute façon manipule et ferme les comptes quand il y a un accès qui devient important, une information qui ne va pas dans le sens du monde global, bloque. Essayer de publier en période de président d'élection américaine quelque chose sur la politique américaine qui n'aille pas dans le sens des démocrates, de toute façon, vous vous faites bloquer, etc. Donc, ce ne sont pas des espaces de discussion. Je pense qu'il faudrait sortir un petit peu de ce mythe aussi. Tant que vous ne faites pas trop de bruit, vous êtes toléré sur ces espaces. Dès que vous commencez à prendre de l'ampleur, les algorithmes vous font sortir du champ de visibilité et si vous dérangez un peu trop, vous êtes sanctionné. Donc, il n'y a pas de débat sur ces plateformes et il n'y a pas de débat avec le fanatisme. C'est une question de maîtrise de l'espace de pensée pour eux. C'est une question, justement, c'est un instrument de pouvoir et de gouvernance à l'extérieur du territoire qu'ils maîtrisent physiquement.
Ouais, c'est un point de vue. Il est parfaitement respectable. Je le partage pas complètement, mais malheureusement, là non plus, on n'a pas le temps de débattre. J'espère que l'occasion nous en sera donnée parce que
À faire une longue liste de débats à faire.
c'est ça, c'est ça. On est appelé certainement à se revoir. La réalité, c'est que l'OTAN poursuit le déploiement de ses forces vers nos frontières nationales. Or, en vertu d'un accord que nous respectons scrupuleusement, Nous ne réagissons pas. Je pense que c'est clair. Le processus d'élargissement de l'OTAN n'a strictement rien à voir avec une modernisation de l'Alliance ou avec une garantie de sécurité pour l'Europe. Au contraire, c'est une véritable provocation de nature à réduire le niveau de confiance mutuelle. Et nous avons le droit de sincèrement nous interroger contre qui cet élargissement s'opère-t-il et que sont devenues ces garanties qui nous étaient données par nos partenaires occidentaux après la cessation du pacte de Varsovie. Où sont donc ces garanties? Personne même ne s'en souvient. Eh bien, je me permettrai ici de les rappeler. Et pour ce faire, j'aimerais citer le secrétaire général de l'OTAN, M. Werner, qui déclarait à Bruxelles le 17 mai 1990, je cite, « Notre volonté même de ne pas déployer de troupes de l'OTAN au-delà de la frontière de la République fédérale allemande constitue pour l'Union soviétique une ferme garantie de sécurité. » Elles sont où ces garanties?
Karine, excusez-moi de passer un peu vite à la question suivante, mais vous venez d'entendre donc l'audio de Vladimir Poutine qui s'exprimait à Munich en 2007. Et déjà en 2007, le président Poutine accusait l'OTAN d'expansionnisme et de déloyauté. Comment explique-t-on la patience de la Russie, qui confine presque à la naïveté? Franchement, parfois on en est à se demander pourquoi ils ont déjà fait tous les constats en 2007 et on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui en 2024.
Effectivement, oui, c'est vrai que souvent ce comportement exaspère un petit peu, pour être honnête. Il me semble que l'on peut trouver plusieurs raisons dans ce qu'on a déjà évoqué, c'est-à-dire quand même cet amour presque inconditionnel des élites russes pour l'Occident et une forme de révérence qui, à mon avis, n'a pas forcément lieu d'être d'ailleurs. Ensuite, il y a une démarche beaucoup plus rationnelle qui est de savoir dans quelle mesure, un, la Russie pourrait assumer et sortir vainqueur sans être détruite d'une confrontation directe ouverte en reconnaissant les choses.
Oui.
Et deuxièmement, une leçon historique, à savoir que la Russie a la mémoire des guerres passées, et notamment de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a pas forcément envie d'être à l'origine d'une troisième guerre de ce niveau, surtout aujourd'hui avec le risque nucléaire qui est réel, puisque, comme vous l'avez certainement remarqué aussi, il y a une facilité, je trouve, absolument malsaine des élites occidentales à envisager la question nucléaire. Donc,
faisant
reporter la responsabilité à la Russie.
D'ailleurs, elle pratique l'inversion accusatoire en disant que c'est Poutine qui menace et qui menace d'appuyer sur le bouton un peu trop facilement.
Voilà. Donc, à mon avis, ça explique qu'il y a plusieurs facteurs comme ça qui nous permettent de comprendre cela. Ce discours de 2007 montre aussi le fait que, au fond, les élites ont parfaitement compris où était le problème. Après, la question, c'est de savoir comment régler ce problème, parce qu'il y a eu aussi un changement d'attitude de la part des pays de l'axe atlantiste qui, pendant longtemps, ont essayé de charmer la Russie pour la faire s'effondrer de l'intérieur. Et finalement, à mon avis, après le Covid, quand ils ont refusé de donner les garanties de sécurité à la Russie, alors que la Russie jusqu'au bout a essayé justement quand même de négocier pour éviter d'augmenter la confrontation militaire, elles ont changé d'attitude en pensant que la Russie était faible et prête à être digérée en quelque sorte, ou en tout cas coupée en morceaux. À mon avis, il y a du côté des élites occidentales également une forme de faiblesse intellectuelle qui est le résultat aussi de décennies de déstructuration de l'enseignement, de la recherche, donc des capacités d'analyse. Nous ne sommes
Enfin, il y a
plus
des services de renseignement quand même à un moment donné
Ils
qui sont
sont
là.
aussi, mais ils sont aussi formés, ce sont aussi des gens qui viennent d'institutions, d'organes, d'écoles. Donc, on ne peut pas détruire, on ne peut pas, si vous voulez, baisser de façon systématique le niveau d'un peuple en imaginant que l'on pourra toujours garder des élites qui, elles, seront capables de gouverner, d'analyser, de prévoir. Et on voit que ça ne marche pas. Il y a ce côté-là et il y a aussi ce côté que, comme ces élites occidentales aussi se sont radicalisées et se sont en quelque sorte devenues un peu plus primaires, elles ne connaissent que la force. Le fait que la Russie garde ce jeu très classique de la diplomatie, qui n'est absolument plus du tout effectivement adapté à la situation, cela est perçu non pas comme une finesse politique, c'est perçu simplement comme de la faiblesse. Donc, il y a effectivement ce problème, et si tout le monde, en tout cas si nous sommes nombreux à pouvoir pointer du doigt le problème, il y a quand même assez peu de personnes qui prennent le risque d'avancer une solution qui soit réaliste, en tout cas.
Oui, effectivement, là-dessus, je vous donne, là-dessus, je vous donne entièrement raison. Il y a juste sur le tout début de votre réponse, vous parlez de déférence en 2007 de la part de Vladimir Poutine. Vladimir
Non,
Poutine,
en
il dit...
général, pas en 2016, j'ai en
Ah, en
général,
général, oui, d'accord,
oui, c'est
d'accord. Parce
à
qu'en
ce moment-là,
2007,
c'est que.
Poutine est en train de leur dire, vous respectez aucun accord,
Oui.
vous aviez donné des garanties, vous les avez foulées aux pieds, etc. Il sait déjà, je dis qu'il sait déjà tout, et malgré tout, il y a les accords de Minsk. Je suis obligé
Voilà.
d'avancer, malheureusement, et je suis obligé d'aborder, même brièvement, les élections américaines, puisque ça ne vous aura pas échappé, il y a des élections dans peu de temps aux États-Unis. Nous sommes à peu près à 3 semaines de ces élections. Les démocrates et les élites mondialistes accusent la Russie d'ingérence. Et pourquoi ne rappelle-t-on jamais dans les médias russes, mais même au-delà, hein, alors que ce soit au Kremlin ou ailleurs, dans les médias et au Kremlin côté russe, mais également même dans les médias alternatifs occidentaux, l'ingérence des États-Unis dans à peu près toutes les élections depuis 1945, et en particulier dans les élections russes en 1996, pardon, qui ont abouti à la victoire à la réélection de Boris Yeltsin.
Au minimum parce que une grande partie des élites russes ne remet pas en cause Boris Yeltsin puisqu'ils sont arrivés au pouvoir grâce à Boris Yeltsin. Donc ils ne vont certainement pas dire qu'ils ont été mis en place suite à une ingérence américaine. Même si tout le monde en est parfaitement conscient, il y a toujours une forme de réécriture du discours historique. Donc la Russie ne va certainement pas se tirer une balle dans le pied pour faire plaisir aux États-Unis. Ça, c'est logique. Ce qui est plus, si vous voulez, amusant, c'est, on va dire que dans la mesure où la Russie veut, a quand même, en tout cas, certaines velléités de souveraineté, elle va pas s'affaiblir pour faire plaisir. Elle va pas reconnaître une forme de soumission d'une partie de ses élites. C'est normal. Et ce qui est amusant, c'est que ce problème, on le retrouve en fait à petit peu près partout, puisque il y a une aide générale qui, quand même, a apporté de manière directe ou indirecte aux élites globalistes dans les différents pays, ce qui en fait met en place une sorte de loi de l'omerta. Et cela sert particulièrement les États-Unis. Donc, il y a en place ce système qui est quasiment mafieux, mais qui est à l'échelle globale. C'est pour ça qu'on dit toujours, depuis le début de l'émission avec vous, à juste titre, ce dont on doit absolument se débarrasser, ce sont de ces élites, où qu'elles soient. Et on voit que c'est possible, mais difficile. Si on voit ce qui se passe actuellement en Géorgie, il y a une réelle tentative et volonté des élites géorgiennes de reprendre le pas et reprendre le pouvoir face aux élites globalistes, notamment incarnée par la présidente géorgienne, française, etc.
Oui. C'est d'ailleurs très impressionnant la vitesse à laquelle les gens changent de nationalité.
Oui,
Le Géorgien qui devient ukrainien,
absolument.
c'est assez impressionnant. Je suis obligé, désolé encore, parce que c'est... Voilà. l'ensemble de ce que vous dites est extrêmement intéressant et je crois enrichit beaucoup le débat. Mais à l'issue de cette crise ukrainienne, le gouvernement en place au Kremlin peut-il passer la main? On sait que Poutine bat des records absolus de longévité au pouvoir, mais est-ce que on peut imaginer que une fois que cette crise ukrainienne, espérons-le, sera apaisée, est-ce que Poutine et le gouvernement actuel russe peut passer la main?
Alors, tout d'abord, vous me permettrez de sortir de la douce litote de la crise ukrainienne apaisée. C'est pas méchant, je comprends, mais c'est une guerre, c'est pas une crise.
On est
Et
d'accord.
elle sera non pas apaisée, elle sera un jour terminée. Et indépendamment du fait que Poutine soit au Kremlin ou pas, d'ailleurs, dans tous les cas, elle sera un jour terminée. Autre élément, Poutine, de toute manière, passera la main parce qu'on a tendance à oublier que Poutine est un être humain. Donc, au minimum, soit il part vivant, soit à un moment il va décéder et il y aura dans tous les cas une succession. Ici, c'est effectivement difficile de dire les choses parce que il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. À la fin de la guerre, il est possible qu'il parte. On ne sait pas quand la guerre terminera, on ne sait pas à quel moment elle terminera. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit le facteur, si vous voulez, le plus important aujourd'hui pour déterminer la question de la succession du pouvoir. Il y a surtout la question de savoir est-ce que ces deux élites, qui sont idéologiquement complètement opposées, pourront vivre ensemble dans un même pays sans provoquer une guerre civile. Finalement, la question, si on la pose de manière assez crue, elle se pose en ces termes-là. L'avantage du temps, c'est que les élites globalistes sont de plus en plus décrédibilisées, et pour cause, puisqu'elles ne peuvent plus justement bénéficier ouvertement, en tout cas, du soutien extérieur, comme ce fut à l'époque le cas pour les élections de Boris Yeltsin, par exemple. Elles sont petit à petit, finalement, confrontées à la population, qui, elle, dans l'ensemble, la population russe est plus conservatrice et étatiste, elle n'est pas forcément très libérale. Dans le sens néolibéral. Mais elle a été extrêmement travaillée depuis longtemps et les gens ici aussi ont du mal à considérer, en tout cas pour certains, mais ça commence à se réveiller un petit peu aussi, tout le danger qui peut être porté par ces élites qui avant étaient du côté de la CEDH, du côté des droits de l'hommisme, hein, qui étaient pro-américaines, etc., et qui tout à coup se sont reconverties dans le culte numérique à fond, et l'on revoit exactement les mêmes têtes qui maintenant sont sorties du droit de l'hommisme, en tout cas, pour revenir sur la question de numérisation totale de l'État, ce qui permet donc effectivement une forme d'affaiblissement. Ici, il y a donc effectivement un enjeu à faire et beaucoup va dépendre du temps qui est utilisé actuellement pour, un, que les élites en place et dirigeantes comprennent que la globalisation et le néolibéralisme, qui est cette idéologie qui porte la globalisation, va au-delà de la question des valeurs traditionnelles. Et n'est pas un point de support de leur gouvernance et un point sur lequel de départ pour le développement réel de la Russie. Au contraire, on ne peut pas se développer avec les armes de l'ennemi, c'est au minimum logique. Et deuxièmement, donc, s'il y a cette prise de conscience, le temps qui sera utilisé pour déglobaliser en douceur la Russie de l'intérieur. Le travail a commencé à être fait, il se fait en douceur, il se fait de façon difficile. Il est à espérer réellement que l'on arrive à sortir de cela. Je ne dis pas qu'il faut revenir au papier et au charbon, la question n'est pas là, c'est que tout doit être utilisé à partir du moment où il est utile. Ça ne peut pas être une fin en soi. Et je parle du numérique. Il y a donc ici cette nécessité de revenir à une vision un peu plus, je dirais, rationnelle et scientifique de la technologie et un peu moins mythique. Autre élément qui me semble extrêmement important, c'est sortir de ces mécanismes managériaux qui ont tué la politique, qui l'ont tué en Occident et qui ont fait aussi pas mal de dégâts en Russie, puisque bizarrement, il y avait, je dirais, une vitalité politique plus forte dans les années 90 que l'on en trouve aujourd'hui. Donc, il y a aussi cette nécessité de revenir à une forme de vitalité politique. Ce qui permettra de relancer également ce nerf. Et en ce sens, le conflit en Ukraine, cette guerre sur le front ukrainien, est un moyen aussi de remettre, comme on dirait en France, l'église au milieu du village. Espérons qu'elle sera remise de manière solide et que tout le village restera autour de son église.
Eh bien, c'est une belle conclusion, Karine Béchet-Golovko. Je vous remercie beaucoup. Alors, je fais part un peu de ma frustration parce que il y a tellement, tellement de choses sur lesquelles j'aimerais débattre avec vous parce que je suis sincèrement impressionné par la qualité de votre réflexion et même s'il y a des choses que je partage pas tout à fait, je
C'est
trouve que
normal.
c'est et tant mieux. C'est ce qui c'est ça le véritable enrichissement. Merci
Merci,
beaucoup.
c'est très gentil à vous.
Je vous ai pas trop torturé, vous reviendrez?
C'est avec plaisir.
Eh bien écoutez, je vous remercie en tout cas beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir.
Je vous remercie, ce fut un plaisir. Ce sera avec un grand plaisir une prochaine fois pour continuer nos échanges.